Chers amis, Hachem Alechem Tihyu, les Orech Hamim Tovim et Shanim Nehemim. Nous reprenons notre étude sur Hanouka. Donc nous avons vu, d'un point de vue historique, que l'histoire de Hanouka, elle se déroule environ sur une trentaine d'années. Prise du pouvoir par Antiochus en 3562, début de la domination des Séleucides. 3593, Antiochus souille le temple. Et 3595, donc deux ans plus tard, c'est la révolte des Maccabées. Le nez de la fiole, il se déroule en 3596. Après cela, quelques années plus tard, cinq ans plus tard, Yehuda Maccabi meurt. À la huitième bataille, il meurt. Et là, c'est une catastrophe terrible parce que toute son armée est décimée et les tenants de la révolte sont obligés de fuir. Et en 3607, c'est Jonathan qui est nommé Cohen Gadol, 3607. Mais celui qui va reprendre le flambeau de la rébellion, de la révolte, c'est le petit frère Jonathan. C'est lui qui va former. Lui, à la différence de son frère, il va faire une armée de métier, il va former des armées jusqu'à avoir 40 000, une armée énorme, 40 000 combattants. Donc, pendant cette période, les premières, juste après la mort de Yehuda, le temple est à nouveau souillé. Les Hellénistes et les Séleucides récupèrent le temple. Les autres, tous les tenants de la révolte, ils sont obligés de fuir dans les grottes du désert de Yehuda. Il y a des catastrophes, ils sont très peu nombreux, à nouveau très peu nombreux. Donc, il va leur falloir plusieurs années pour rétablir, combattre et se renforcer jusqu'à former une armée puissante. Et c'est donc, nous avons dit, c'est en 3607 que Jonathan est nommé, promulgué Cohen Gadol, et que l'indépendance est rétablie en 3616, donc beaucoup plus tard. Cependant, Jonathan lui-même va être assassiné. En 3618, il est assassiné par Tryphon dans la forteresse de Akko. Et c'est son frère Shimon qui va lui succéder. Mais en lui succédant, il va venger son frère et il va établir donc le royaume. Il va élargir. Jonathan et Shimon ont élargi les territoires. Ils ont conquis la rive, enfin, c'est-à-dire toute la partie, la plaine côtière a été conquise, ce qui n'a jamais été conquis. Qui de tout temps était un territoire philistin, Gaza, Ashkelon, Ashdod, toute la bande côtière. Et là, ils vont conquérir ces villes-là, et ils vont élargir le territoire du royaume. Et en 3622 commence la dynastie des Hashmonaïm par Shimon Arishon. Qui est déclaré roi du royaume d'Israël. Et de 3622 jusqu'à la destruction du temple en 3828, donc il y a plus de 200 ans. Ça, c'est l'histoire. Donc on voit que l'essentiel de cette histoire-là, c'est la victoire militaire. C'est l'essentiel. C'est pour cela qu'on fait Hallel. On ne fait pas Hallel sur un miracle qui est minime, secondaire. Et cependant, nous voyons que la Gemara occulte la victoire. Elle ramène la victoire dans aucun texte. Il est dans aucun texte de Midrashim ou de la Gemara où il est mentionné de manière spécifique, où on met l'accent, souligner la victoire militaire. Surtout dans la Gemara. Et la Gemara va indiquer que l'essentiel, c'est le miracle de la fiole d'huile. Ce qui est étonnant. Alors, quel est l'intérêt de tout ça? Quand on lit le livre des Maccabim, la Megillat Antiochus et d'autres Sfarim, qui ne font pas partie des 24 Sfarim qui sont d'époque, mais qui ne font pas partie de du canon, des Esrim Verba Sifre Kodesh, on voit que l'essentiel, c'est la victoire militaire et que dans tous les textes, il n'est pas fait mention du miracle de la fiole d'huile. Certes, le miracle de la fiole a dû certainement se produire, sans aucun doute, mais il était secondaire, comme nous l'avons dit. Et c'est... Alors, pourquoi on a substitué l'essentiel? On a mis de côté l'essentiel et on a ciblé le miracle de la fiole d'huile. Et d'ailleurs, c'est uniquement ce qui reste. Il ne reste pratiquement que le miracle de la fiole d'huile. L'idée est la suivante. Plus tard, les Hashmonaïm vont, il y aura des guerres internes, des combats internes, les successeurs, ceux qui voudront succéder à la royauté, vont se combattre et ils vont faire pénétrer les Romains en Eretz Israël. Et à la fin, c'est la domination des Romains sur le royaume d'Israël sera totale. Le dernier des rois de Hashmonaïm, de la dynastie de Hashmonaïm, c'est Hérode. Et Hérode, c'est comme Yanaï, comme les prédécesseurs, ont tué les Chachamim. Ils ont lutté contre les Chachamim. Yanaï Amelech, il a tué 800, il est rapporté qu'il a tué, il a crucifié 800 Prouchim, qui sont les Chachamim, et il les a massacrés, il les a poursuivis. De même pour Hérode, qui a tué, comme c'est rapporté dans Gemara Batra, il a tué les Chachamim. Bien que, après, Hérode lui-même, il a demandé à Baba Van Buta comment je peux réparer, il a dit construire le temple. Donc c'est le temple, Hérode était un grand bâtisseur, donc il a construit énormément, et le temple, les murs que nous avons, c'est lui qui les a rénovés, les grandes pierres, les pierres taillées, etc., c'est lui qui a construit ça. Al Kol Panim, de toute façon, voyons qu'il y a substitution. On a donné l'importance à quelque chose de secondaire, et en essentiel, on l'a mis de côté. Et de plus, les Chachamim, ils ont fait disparaître tous les écrits, ce qu'on appelle Megillat Maccabim, Megillat Antiochus, tout ça a disparu. Pourquoi? C'est une volonté historique des Chachamim. Parce que, à la fin, il y a eu trois révoltes. Contre les Romains, les Israéliens, ils se sont révoltés à trois reprises. La Gemara dans Perek Hanizakim, dans Gittin, elle raconte comment, en 66, il y a une première révolte qui a amené, en 70, la destruction du temple. Et là, il y a eu des massacres terribles. Le monde a été dévasté. RS Israël a été dévasté. Beaucoup de morts. Quelques années plus tard, entre 115 et 117, pendant 2 ans, il y a eu une révolte qu'on appelle Mered Atfutsot, la révolte des Juifs de Khoutzlarès, les Juifs qui étaient dans l'Empire à l'extérieur de l'Israël, en Égypte, en Méditerranée, sur les côtes de la Méditerranée, en Europe. Ils se sont rebellés, révoltés contre Rome. Et là aussi, à nouveau, il y a eu des massacres terribles. Les historiens évaluent qu'il y a eu à cette époque-là plus de 600 000 Juifs qui ont été massacrés. Et après, nous avons la révolte de Bar Kokhba en 135, qui se conclut avec la mort de Rabbi Akiva et des 24 000 élèves. Rabbi Shira Gaon dit que les 24 000 élèves de Rabbi Akiva qui sont morts, ils sont morts au combat. Ils sont morts bashmad. C'était les soldats de Bar Kokhba. Alors, la question se pose, pourquoi les Chachamim nous disent qu'ils sont morts d'épidémie? Ils ont voulu masquer les choses. Pourquoi? L'idée première, c'était qu'il faut que les Bnei Israël acceptent, à partir de la destruction de Beta et que le fait que la troisième révolte ait été un échec, il faut plus se révolter. Et Chachamim, ils ont dit que HaKadosh Baruch Hu a fait jurer à Israël trois serments. L'un des serments auxquels nous sommes tenus, ou nous étions tenus, est de ne pas se rebeller contre les nations. Pourquoi ? Et pour ce faire, ils ont pris les Sefer Maccabim et les ont fait disparaître. Pourquoi ? Pourquoi les ont-ils fait disparaître ? Parce que d'où venait l'idée de rébellion constante ? D'où venait l'idée qu'on pouvait déstabiliser et combattre un empire puissant comme l'empire de Rome et retrouver la souveraineté ? Ça vient des Maccabim. Les Maccabim, au départ, ils étaient 15. Quand on lit les Sefer Maccabim, on voit que la gvoura, que la puissance, que la volonté de combattre, l'acharnement au combat, la mesirut nefesh, pourrait donner, insuffler cette idée, cet enthousiasme au combat. Donc, Sacham, ils ont voulu éliminer, faire oublier des Bnei Israël qu'on pouvait combattre. Parce que, constatant les catastrophes qui se sont produites, ils ont voulu calmer les esprits. Et qu'à partir de là, il faut se soumettre à la domination des nations. Et accepter le galout, en fait. Et donc, on peut plus parler alors. C'est pour ça qu'on va, parler le moins possible des histoires de victoire et de combat et de rébellion et de révolte. Alors, qu'est-ce qui reste de Hanouka? Si c'est comme ça, qu'est-ce qui reste de Hanouka? S'il n'y a plus il n'est plus mentionné l'importance de la victoire militaire, alors il reste la fiole. La fiole va nous permettre de continuer à pratiquer la fête, parce que sinon on aurait pu, si c'est ainsi, si nous disons que l'essentiel de la fête de Hanouka, c'est la victoire militaire, et que c'est ça que l'on commémore, et ça peut susciter des idées à ceux qui ont envie de se rebeller à nouveau, ça, alors il fallait annuler la fête. Mais la fête était inscrite, la fête était pratiquée, donc comment de manière naturelle, c'était une fête qui existait depuis 200 ans. Comment l'éliminer? Alors on lui a donné un autre aspect. L'aspect de préparation au galout, à la soumission, mais avec un aspect d'espoir messianique, que la lumière peut éclairer les ténèbres. C'est ça ce que Chachamim, ils ont fait, et c'est ça, Béhémet, c'est cette idée-là que va prendre Hanouka, l'illumination des ténèbres, par l'étude de la Torah, on va changer notre approche. Et la nation juive n'a plus d'existence, mais on va trouver un remplacement dans l'étude de la Torah. La nation juive n'est pas uniquement l'État, elle est aussi l'étude, ce qui permet le lien avec HaKadosh Baruch Hu, qui est l'étude de la Torah. L'institution qui faisait de la nation juive une nation, c'était le Beth Amikdash. En disparaissant, la nation juive a été brisée, a été fractionnée. Nous avons perdu le statut de nation. Mais malgré tout, ce concept de nation continue à exister à travers l'étude de la Torah et la pratique des mitzvot. C'est la nation juive qui se conduit. C'est ça le concept du minyan, de la synagogue, etc., de la lecture de la Torah publique. On veut perpétuer ça. Et l'idée essentielle l'idée essentielle de la pérennité d'Israël à travers les temps, c'est la lumière de Hanouka qui fait référence à la Torah chez Béalpé. Et c'est ça l'idée fondamentale qui est transmise dans le fait qu'on a donné l'importance au miracle de la fiole d'huile. Et le seul endroit où ce miracle est mentionné, c'est la Gemara dans Shabbat. Ce miracle n'est ni mentionné dans Megillat Ta'anit, ni dans le Yerushalmi, ni dans les Midrashim. Il est marqué nulle part ce miracle, ni dans Sefer Maccabim, dans une des versions. Donc, on voit certainement que le miracle a eu lieu, certainement que ça s'est produit, mais c'était quelque chose, un peu ce miracle-là, c'est un miracle qui s'est dû se produire. Si il se produit dans le temple, alors c'est pas un miracle fabuleux, il est connu que de quelques personnes. Les Kohanim qui étaient dans le temple à ce moment-là, qui ont allumé les néons, quelques dizaines de personnes. Donc c'est pas quelque chose c'est pour ça que Chachamim, ils ont dit, on va publier ce miracle. Donc Pirsum Hanes, c'est on allume Hanouka pour dire, avec l'idée de dire, voilà, c'est ça l'essentiel du miracle. C'est quoi l'essentiel? Akadosh Baruch Hu, il a fait un miracle extraordinaire, que la menorah, elle a été avec une fiole, d'un jour, on a allumé 8 jours. C'est ça, les farsem Hanes. Et ce Pirsum, il indique que Kohar HaTorah, il est perpétuel. Alors, on doit s'adonner à la Torah, approfondir l'étude, de sorte que la littérature, la Torah elle-même, les pirushim, ils se développent, ils s'amplifient. C'est ça ce qui va permettre la pérennité de Ram Israël à travers le galout terrible de 2000 ans que nous subissons. Baruch Adonai Leolam. Amen ve'amen.